Bonjour, bien-aimé, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Thierry, merci aussi pour les relations, comme tu viens de le dire, ce sont des belles relations. Nous avons la joie aussi de travailler au réseau ensemble. J'aimerais vraiment dire, oui, Thierry, ce n'est pas seulement quelqu'un qui porte le titre du président du réseau. C'est quelqu'un qui aime l'Église de Genève. Et j'aimerais te remercier pour ton service pour nous tous. Ça m'inspire et je suis... Voilà, il faut des fois aussi... c'est beau, l'Église là, l'Église reconnaît aussi. Et ça, c'est une belle chose. Parfois, les pasteurs, hein, c'est vos serviteurs, oui, mais ils sont aussi dans un combat, des fois solitaire. N'oubliez pas. Et merci de les encourager de cette manière, comme vous venez de le faire. Et je pense que nous avons effectivement un travail à faire ensemble, n'est-ce pas? Nous avons des bénédictions à partager. Je suis heureux d'être avec vous et de vous donner aussi un point de vue sur la parole et d'étudier avec vous cette magnifique parole de Dieu. Merci pour la louange qui était là. Je suis toujours interpellé de voir comment font les autres, hein. C'est parfois un apprentissage. J'ai vu vous avez vous écoutez de la musique pendant que vous chantez de la louange ou quoi? Non, mais je vois c'est les retours, j'imagine. Mais bon, vous avez maintenant sorti les bouchons de vos oreilles parce que ça c'est l'essentiel. Nous voulons aller dans la parole ensemble. Est-ce que tu peux afficher ce titre? Moi, je vous apporte un message sur la nécessité d'un changement profond. Est-ce que vous avez déjà pris une fois la décision, cette fois, je vais changer? Ça ne m'arrivera plus. J'ai besoin d'un changement radical, un changement profond. Par exemple, tu veux changer une habitude ou tu veux changer un comportement que tu as identifié et ce comportement doit changer. Par exemple, je ne vais plus me mettre en colère de cette manière-là ou je vais mieux gérer mon emploi du temps, toutes ces heures que je suis en train de perdre tout le temps. Ou on a chanté ici avec vous, même si c'est difficile, je chanterai gloire. Oui, c'est beau de chanter ça le dimanche, mais est-ce que tu le chantes demain? Est-ce que tu le chantes encore vendredi? Oui, tu as peut-être déjà dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais sincèrement te suivre. Très bien, mais souvent c'est difficile justement et on se retrouve à nouveau en échec. Ça ne marche pas avec les décisions. Mais je ne suis pas venu ce matin ici pour encore enfoncer un clou là-dessus. J'imagine comment tu te battes. Tard le soir ou pendant la pause de midi, tu es en train de te battre avec des décisions, avec il y a de la pression autour de ça. Alors écoutez cette parole de l'évangile de Luc, parole de Jésus-Christ. En ce temps-là, quelques personnes vinrent à lui, à Jésus, vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous mourrez comme eux. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous mourrez comme eux. Dans une de mes Bibles, j'ai trouvé... le titre que les traducteurs ont rajouté, « La nécessité d'un changement profond ». Et le mot que la Bible emploie ici, le mot en original, c'est « métanoïa ». On va revenir sur ça. Mais tout d'abord, les gens viennent à Jésus, vous avez vu, Seigneur, quelque chose de terrible est arrivé. Ponce Pilate a fait massacrer des Juifs alors qu'ils étaient en train de sacrifier devant l'autel du temple. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dans quel monde vivons-nous? C'est de la folie. Réponse de Jésus. Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres? Est-ce que parce qu'ils ont gravement péché que cela leur est arrivé? Puis-je me permettre? Est-ce que ces Galiléens ont péché? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils ont péché? Certainement, ils ont péché. Parce qu'ils sont allés au temple pour sacrifier. Pourquoi ils ont sacrifié? Pour demander pardon pour leurs péchés. Et alors qu'ils étaient en train de faire cela, alors qu'ils étaient en train de demander pardon, de sacrifier, cela leur est arrivé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'attirer à ce point la colère de Pilate? Je ne pense pas que c'était juste pour un refus de bonjour. Peut-être que c'était des zélotes. Vous savez, des zélotes, c'était un parti de juifs radicaux, complotistes. Il y avait d'ailleurs un zélote dans le groupe de Jésus, Simon le zélote. C'était des gens, des activistes, on va dire. Peut-être qu'ils ont organisé des émeutes ou des manifs anti-romains. Peut-être qu'ils ont saccagé une statue de l'empereur. Bref, ils ont certainement été pour quelque chose. Mais Jésus raconte une deuxième histoire, un fait divers. Aujourd'hui, on lirait ça dans les journaux, hein, ce sont des faits divers, c'est ce qui se passe un peu autour de nous. Une autre histoire, la tour de Siloé, un accident. Alors c'est encore plus évident que dans la première histoire, ces gens sur qui la tour s'est écrasée. Mais ils n'y étaient pour rien, ils étaient juste là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ces pauvres gens, ils étaient juste là par malchance. Et cela nous fait penser à toutes ces victimes, n'est-ce pas, des tremblements de terre, des accidents de voiture, tout ce que vous pouvez imaginer. L'accident de cet avion, vous vous souvenez, il y a quelques années, MH17, au-dessus de l'Ukraine. Ils étaient tranquillement dans leur avion et puis un missile touche cet avion. C'était, enfin, tu peux imaginer plein de choses. Toutes ces personnes qui perdent leur boulot, les chrétiens persécutés ou la chute du Crédit Suisse, un monument qui tombe. Mais Jésus, vous savez, on pourrait raconter 10 histoires. Jésus en a entendu une, il en a raconté une deuxième, mais on pourrait en raconter 10. Et qu'est-ce que dirait Jésus à ces gens? Si vous ne changez pas, si vous ne vous repentez pas, vous irez tous, vous subirez tous le même destin, vous mourrez tous pareillement. C'est ça qui nous interpelle, n'est-ce pas? Si vous ne changez pas. Alors qu'est-ce que c'est ce changement radical? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, 2 fois Jésus donne la même réponse. Qu'est-ce que c'est un changement profond? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on nous demande en fait? Je dirais parfois, oui, dans les églises, le dimanche, ben, on nous appelle toujours, mais changez, mes frères et sœurs, changez quelque chose. Et peut-être vous êtes déjà fatigués d'entendre ça, mais qu'est-ce que je dois encore changer? Je viens fidèlement à l'église tous les dimanches, je suis là devant le Seigneur, j'essaie de faire de mon mieux. Mais oui, on ne voit pas toujours très bien ou très clairement qu'est-ce qu'il faut que je change, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que le Seigneur nous demande chaque dimanche le grand changement. Mais moi, je vois dans ma vie, le Seigneur, il me demande jour après jour. Et il me dit jour après jour, voilà, je t'aide à changer quelque chose. Il me rend attentif par son Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que c'est la repentance. Qu'est-ce que c'est ce terme aussi, métanoïa, hein? Si vous ne vous repentez pas, métanoïa, vous mourrez tous comme eux. Métanoïa veut tout simplement dire, si on prend ça textuellement, méta, autrement, et noïa, penser. Autrement penser. Ou, ça parle aussi d'un changement de mentalité. Changer de mentalité. Est-ce que la repentance, c'est regretter? Vous pensez, ah, je regrette, je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi je me suis mis en ménage avec cette personne? Et on pleure. Est-ce que c'est demander pardon? Ce n'est pas mal de demander pardon, mais c'est insuffisant. Est-ce que se repentir ou métanoïa veut dire je vais réparer ma faute, j'ai fait une grosse bourde, je vais maintenant réparer et payer pour ça? C'est déjà mieux. On approche un peu de la vérité. Vous vous rappelez de Zachée, n'est-ce pas? Où Jésus est rentré dans cette maison de Zachée, et Zachée, il a été saisi de crainte devant le Seigneur. Il a compris, mais tout ce que j'ai fait, il était à grippe sous. Il a volé l'argent du peuple et il a dit, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai volé au peuple, je le restituerai et en quadruple. Donc là, c'était quelqu'un qui voulait réparer. Mais avant cela, il était vraiment aussi au pied du Seigneur. Mais vous savez aussi, même si tu veux réparer, je ne dis pas que c'est mauvais ou qu'il ne faut pas le faire, mais il y a des choses que tu ne peux plus réparer. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. C'est fait, c'est fait. Ce n'est pas juste, j'ai cassé le vélo de quelqu'un et puis je vais lui acheter un autre vélo. Ou je lui ai fait une bosse dans la voiture et maintenant je lui paye la réparation. Non, ce ne sont pas des choses comme ça. Et parfois, on a aussi l'intention de changer. Est-ce que métanoïa, ça veut dire, oui, maintenant j'ai l'intention de changer, je vais vraiment changer, demain je changerai. C'est ça? J'ai pris conscience, et que c'est une bonne chose quand tu prends conscience de devoir changer. Oui, j'ai pris conscience que je ne peux pas continuer à vivre comme cela. Ma vie, mon train de vie me mène à la perdition. Je vais vous raconter une autre histoire. Une histoire, un accident, terrible accident dans ma proche famille. Et cela s'était passé il y a environ 20 ans, peut-être 25 ans. Et c'est arrivé jusque dans les unes des journaux à l'époque. Hein. C'était quand même un truc incroyable. Mon oncle et leur famille sont des viticulteurs, de père en fils, une belle tradition familiale, une entreprise familiale. Je suis allé souvent en tant qu'enfant tailler des vignes ou pour les vendanges et tout ça. Ce sont des souvenirs de mon enfance. Mon oncle et toute sa famille, les cousins. Et dans cette entreprise, il y avait un monte-charge. Vous voyez ces monte-charges qu'on trouve dans des gros ascenseurs. Mais cet ascenseur, ce monte-charge, il était mal fait. Il y avait un défaut. C'est-à-dire tu pouvais ouvrir la porte alors que l'ascenseur n'était pas là. L'ascenseur était peut-être en haut, il était en bas, ou je ne sais pas, mais tu pouvais ouvrir la porte. Et un jour, le grand-père, grand-papa, il est tombé dans cette cage d'ascenseur. Et il s'est brisé tous les os et il est mort. Suite à cela, déjà là, bon, à ce moment-là, tout le monde savait que cet ascenseur était dangereux. Mais écoutez maintenant, environ 6 ans plus tard, un soir, mon oncle, le chef de l'entreprise, tard le soir, je ne sais pas ce qu'il faisait encore dans ses ateliers, il est tombé lui-même dans cette cage d'ascenseur et il y a passé toute la nuit en criant et en hurlant, en appelant du secours, mais personne n'était là pour l'entendre. Je pense qu'il était tombé vraiment dans ce trou et il n'est pas mort, en fait. Il est paraplégique maintenant. Il est dans un fauteuil roulant. Toute la nuit, au fond de ce trou. Et un énorme choc dans notre famille. Et ça, c'est allé dans les journaux. Comment cet entrepreneur n'a pas fait réparer cet ascenseur? Pourquoi il n'a pas changé ce maudit système? Voilà un petit exemple, frères et sœurs. Il ne suffit pas de regretter. Il ne suffit pas de dire et d'avoir l'intention de changer. Connaissant mon oncle, il s'est certainement dit, débordé comme il était toujours, « Je vais changer un jour ce truc. Un jour, je vais le faire. » Mais il n'avait pas le temps de le faire, il était tombé lui-même encore dedans. Ils ont tous pleuré, je peux vous dire, ils ont tous pleuré quand grand-papa était mort. Mais mon oncle n'a rien changé à son fonctionnement. Il n'est pas allé jusqu'à la cause profonde du malheur et du système dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est allé jusqu'à la cause profonde du malheur, de tous nos malheurs. Amen. Et gloire à son nom, gloire à notre Seigneur. Il est allé à la source, à la cause profonde. Et cette cause, elle s'appelle le péché. Comme il est écrit dans Romains chapitre 3, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifié par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu te sens pécheur? Drôle de question. Est-ce que tu te sens pécheur? Mais la question n'est pas est-ce que tu sens ou est-ce que tu ne sens pas. Dieu déclare que tu l'es, de son point de vue. Nous nous prenons parfois pour être la juste règle, mais c'est Dieu qui déclare qui est et qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu te sens ou est-ce que tu ne te sens pas? Dieu dit que ton problème, que le problème numéro un de toute l'humanité est le péché. C'est pour ça qu'il nous a envoyé un sauveur d'ailleurs. Sinon, il nous aurait envoyé peut-être un technicien, ou il nous aurait envoyé un ingénieur, ou il nous aurait envoyé, je ne sais pas quoi, un psychologue. Il nous a envoyé un sauveur, mes frères et sœurs. Alléluia. Et le péché, il nous sépare de Dieu pour toujours. Dans ces deux histoires, voyez, les Galiléens qui ont sacrifié, qui ont été massacrés en étant au temple, et l'autre histoire, la tour de Siloé qui est tombée sur eux. La question n'était pas est-ce qu'ils étaient des pécheurs? La question n'était pas est-ce qu'ils étaient moralement meilleurs que tous les autres? Vous avez entendu Jésus? Est-ce qu'ils étaient pires que les autres? Est-ce qu'ils étaient meilleurs? C'est pas la question, mes frères et sœurs. Comment tu te sens? Est-ce que tu es encore un peu... Oui, je suis encore... Ça passe encore chez moi. Non. À la fin, tout ce qui compte, c'est est-ce que tu es revenu à Dieu avec ta vie? Est-ce que tu as plié ton genou devant notre Dieu, devant Jésus-Christ? On a tous entendu parler de cette débâcle du Crédit Suisse, n'est-ce pas? J'étais devant mon téléviseur dimanche passé, le soir, j'ai voulu regarder les infos et puis ben, on nous passe pendant des heures ce qui est arrivé. Encore une banque, encore un monument qui tombe. Et j'ai pensé et prié pendant que j'écoutais ça. J'ai pensé d'abord à un ami qui travaille au Crédit Suisse, mais j'ai aussi pensé et prié. J'ai dit, Seigneur, si la Suisse, enfin, venait s'agenouiller devant le Seigneur, si enfin, dans notre pays, dans notre nation, il y aurait une profonde prise de conscience. Parce que je me rappelle en 2008, Il y avait déjà une crise bancaire. On avait dit, ça ne se produirait plus jamais. Ça ne pourra plus se faire. On a installé une autorité qui s'appelle FINMA, qui doit contrôler le marché financier de toute la Suisse. Mais bon, apparemment, ça ne sert à rien. Et quelqu'un l'a dit aussi, le Crédit Suisse a été sanctionné des milliards, qui chaque année ou tous les deux ans, ils ont dû payer pour leur mauvaise gestion. Ils ont été punis, mais apparemment, même la punition ne les a pas fait changer d'avis. Et si la Suisse revenait à Dieu, c'est ça. Oui, les monuments peuvent tomber, hein, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que c'est une banque qui a 160 ans d'histoire, une longue tradition, tout ce que vous voulez. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et c'est cela que nous devons garder en mémoire. J'ai souvent dit ces derniers jours ce verset parce que les gens me disent, comment ça et tout. J'ai dit, oui, le ciel et la terre passeront. Vous allez voir encore des monuments tomber. Tant que nous ne changerons pas, tant que nous ne revenons pas au Seigneur, tant que aussi au niveau du gouvernement, peut-être qu'il n'y ait pas une prise de conscience, pourquoi on ne dit pas, c'est le temps de faire vraiment table rase et de dire, pourquoi notre peuple, pourquoi nous avons honte de parler en Dieu, de Dieu, pourquoi nous ne parlons pas de cet éloignement, de cet abandon. Je me suis un peu emballé là, hein? Mais parce que vous savez, j'ai grandi en Suisse, je suis Suisse et je souffre avec mon peuple. Je ne le dis pas pour juger ou contre le gouvernement, je suis triste parce que je dis non. Pourquoi nous en sommes arrivés à ce point? Pourquoi nous avons adopté un tas de lois qui vont clairement à l'encontre de la volonté de Dieu? Et consciemment, nous mettons Dieu de l'autre côté de la barre. Il n'a plus rien à dire dans notre pays. Mais je termine avec ces questions, en fait, sur la nécessité d'un véritable retour vers Dieu. Vous êtes conscient aussi? Moi, je suis conscient. Le Seigneur dit... Et ça, c'est la fin de son petit message là, de cette histoire. Il dit, vous allez tous mourir pareillement. C'est à peu près la pire manière dont tu peux conclure un message. De dire aux gens, vous allez tous mourir pareillement. Jésus a fini son message sur cela. Personnellement, je n'ose pas trop terminer sur cela parce que... Il y a aussi d'autres textes, il y a la grâce de Dieu, mais en fait, Jésus met le doigt sur le vrai problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez mourir? Oui, oui, mais pas aujourd'hui, un autre jour, et pas de cette manière-là. Ok. Mais vous allez quand même mourir. Et nul ne sait le jour ni l'heure. Ces perspectives ne nous enchantent franchement pas. Le pasteur qui vient ici encore pour nous mettre ça devant les yeux, désolé. Mais il me semble que Jésus voulait justement amener les gens à ce point, dans cette histoire. Il voulait les amener sortir du rôle des spectateurs qu'ils étaient, qu'ils disaient, là ça s'est passé là-bas, là il y a eu ça, ils étaient peut-être... À l'époque, pas encore derrière leurs petits écrans, mais ils étaient spectateurs et le Seigneur a dit, et vous, si vous ne changez pas, et si tu mourais, toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Si tu devais partir aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu seras? Qui te le dira? Jésus nous présente ici une solution aussi. Elle est simple, mais elle change tout. Et je termine sur ça. La première, un petit bloc de doctrine chrétienne. Je termine sur ça parce que vous allez comprendre. Un petit bloc de doctrine chrétienne. Si vous ne vous repentez pas. Je commence en Luc chapitre 13, là où Jésus était. La solution, elle est là. Si aujourd'hui tu te repentais, si aujourd'hui tu venais à Dieu, et j'ai besoin de souvent venir à Dieu, hein, je peux vous dire, parce que de plus en plus, le Saint-Esprit me montre que je ne suis pas encore au point, que je fais encore des bourdes, que je suis encore méchant avec ma femme des fois. Voilà, je ne suis pas encore à ce point où le Seigneur voudrait que je sois. Alors j'ai besoin de venir à lui souvent. Viens aujourd'hui à lui. Un changement radical de mentalité. Pardon, il y a pour la Suisse, par exemple, j'ai lu ce verset et ça m'a parlé. Aux Suisses, Jésus dirait « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » C'est magnifique, n'est-ce pas? Si les banques et nous tous aussi en étaient un peu moins avides. Et puis, dans Matthieu chapitre 6, verset 27, le Seigneur dit, en quelque sorte, que stresser, ça ne sert à rien. Des fois, tu es stressé, tu veux mettre un tas de choses dans ta vie, mais qui de vous peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie en se faisant du souci? Le Seigneur, il dit, abandonne ta vie. Laisse le Seigneur faire, tu, de toute façon, il y a une limite et le Seigneur la connaît. Dans Jean 8, verset 21, Jésus, il parle avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi et il leur dit, il est triste parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout en étudiant toujours la Bible et les lois de la Torah. Il leur dit, mais vous, vous mourrez dans vos péchés. Et dans Jean 5, il dit ceci, « Celui qui croit en Jésus-Christ a déjà la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. » Moi, je suis déjà passé de la mort à la vie, mes frères et sœurs. Et vous, est-ce que tu attends encore le jugement? Non, c'est plus nécessaire. C'est plus à l'ordre du jour si tu as fait cette repentance, si tu as compris ces choses. Jean 10, verset 28, merveilleux. « Ils ne mourront jamais, dit le Seigneur. » Il parle là de ses brebis. « Mes brebis, ceux qui m'appartiennent, ils ne mourront jamais. » Bon, ça veut dire quoi? Un jour quand même, ton corps va te lâcher et Tu vas mourir, oui, ton corps physique va mourir, mais tu ne mourras pas parce que tu vis éternellement déjà et tu prends l'ascenseur directement. Voilà. Et je termine avec ça. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Vous avez vu ça? Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire de ces informations, de ces choses? À mon oncle, suite à son accident, mon oncle qui est paralysé, je lui avais écrit une lettre en lui mettant un peu tout ça. Je lui ai écrit, maintenant... C'est terrible ce qui est arrivé, tu dois te culpabiliser, tu dois avoir ceci et ça, je ne sais pas. Je lui ai écrit et j'ai dit, Dieu t'a laissé en vie pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses changer. Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Il ne m'a jamais répondu. Depuis 25 ans, je n'ai plus jamais rien entendu de lui. Je ne sais pas.
Il est vivant.
Il est dans un EMS. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Quelle est ta décision? Tu veux te battre tout seul pour essayer de te changer, pour dire ah, ça ne m'arrivera plus, je vais devenir une autre personne? Ou est-ce que tu viens à Jésus qui lui se charge de te changer, qui lui se charge de te sauver? Il a déjà donné son oui, le feu vert, il est largement ouvert, tu peux avancer. Que Dieu te bénisse, mon frère et sœur. Amen. Bon dimanche à tous. Voilà.